Saluton!
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 Saluton! Saluton.
Mais non, vous ne rêvez pas, vous écoutez bien Radio Plaisance de Plazac sur 95,9 MHz et nous venons de vous saluer en espéranto. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'espéranto? Nous allons tâcher de répondre à ces questions dans l'heure qui suit et dans les prochaines émissions. Mais tout d'abord, nous allons vous proposer encore deux saluton afin de vous montrer que l'espéranto est bien vivant en Dordogne et concerne tous les âges. Voici tout d'abord Samuel, 2 ans et 3 mois, qui vous dit
« Saluton ».
N'est-ce pas adorable? Allez, on le refait.
« Saluton ».
Et voici enfin l'un des pionniers de l'espéranto en Dordogne, René Trény, du Flet, qui, à 96 ans, vous salue amicalement.
« Saluton amicoi, de amicoi ».
René vous a dit « Bonjour les amis », puis a précisé « amis au masculin et au féminin. »
Mais qui sommes-nous? Nous sommes des membres du groupe espérantiste Périgourdin, une association qui aura bientôt 25 ans. Saluton, Ange.
Saluton, Claude.
Qui est lui, Fartas? Comment vas-tu?
Bonne, Kaivi. Bien, et toi?
Bonne, Ancaumi, Fartas, bonne. Moi aussi, bien. Donc, Claude Labetta, secrétaire du groupe espérantiste Périgourdin. J'ai 60 ans, je viens de prendre ma retraite et j'ai souhaité consacrer cette retraite à l'espéranto, essayer à mon modeste niveau de contribuer à sa diffusion. J'ai en fait découvert cette langue il y a 5 ans grâce à un de mes collègues du lycée Bertrand de Born, José Manuel Soria, qui est d'ailleurs le président de notre groupe. Et toi, Ange?
Très bien, bonne présentation. Donc je suis Ange Matteo. J'apprends l'espéranto depuis, un peu plus de 2 ans. Et je suis secrétaire adjoint du groupe. Et je ne suis pas retraité, malheureusement.
Mais voilà. Tu es nettement plus jeune.
Donc je suis encore en activité, mais je suis plus jeune, voilà. Donc nous allons vous parler, durant cette heure et durant d'autres émissions, de l'espéranto. Alors il y aura aussi d'autres intervenants qui vont nous aider à vous parler de cette langue, comme par exemple Guy, Joël, Laurence, Jacques, José, etc. Donc par exemple Jacques va nous parler plutôt de l'historique de l'espéranto. José, qui est prof d'espagnol, va plutôt évoquer le côté linguistique, plutôt le côté technique de la langue. Et ensuite...
Et il nous faut quelques élèves.
Et quelques élèves, oui.
Alors Guy et Joël en sont à leur 2e année d'espéranto.
Voilà, et Laurence vient de démarrer donc l'espéranto cette année.
Voilà, donc, amis auditeurs, vous aurez à vos côtés des vrais élèves d'espéranto, donc de 1ère et 2e année.
Qui vont apprendre comme vous les premières bases de l'espéranto.
Exactement. Bon.
Peut-être pas dans cette première émission, Claude.
Non, nous n'allons pas effrayer... Les non-espérantophones. Donc, en fait, lors de cette première émission, nous souhaitons vous donner envie d'apprendre.
Donc, nous allons parler un petit peu de l'espéranto, de comment se présente cette langue. L'espéranto, qu'est-ce que c'est?
Les premiers éléments. Mais
exactement.
Alors,
les
Ange,
premiers éléments. Oui.
Il me semble que tu as préparé un reportage sur la vie du créateur de l'espéranto.
Tout à fait.
Alors, quel est ce monsieur?
Vous pourrez écouter donc un petit reportage là sur donc le docteur Zamenhof, Louis-Lazare Zamenhof, qui a créé l'espéranto il y a déjà pas mal d'années. C'était en 1887.
Voilà, il y a donc un petit peu plus de 120 ans.
Mais qui est donc ce Ludwig Lazare Zamenhof? Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Son nom et celui de son œuvre figurent pourtant sur plus de 1200 rues, places, édifices publics dans plus de 53 pays, En France, nous en avons plus de 160. Son nom est Louis Lazare Zamenhof, et il fut l'initiateur de l'espéranto, la langue internationale, qui est le sujet de cette émission. Louis Lazare Zamenhof est né le 15 décembre 1859 à Białystok, une petite ville de l'ouest de la Pologne, appartenant à l'époque à l'Empire russe. Cette ville était sur une terre disputée et opprimée, occupée par 4 ethnies qui avaient chacune sa langue, le polonais, le russe, l'allemand, le yiddish. Le jeune Zamenhof connaissait bien les 4 langues, et lors des conflits fréquents qui l'ont marqué, il sent que l'impossibilité de communiquer joue un grand rôle. Pour lui, il est nécessaire d'aller sur un terrain neutre, une langue n'appartenant à aucun pays dominant et accessible à tous. Dès 1874, à l'âge de 15 ans, il travaille sur ce projet et, dès 19 ans, le présente avec succès à ses camarades de lycée. Son père l'envoie étudier la médecine à l'université de Moscou. Son père est hostile aux activités linguistiques de son fils, et il lui fait promettre de ne pas s'occuper de cette lubie, selon lui, durant toutes ses études, et garde les notes et manuscrits sous clé. Lorsque le futur docteur Zamenhof revient à Varsovie, dans l'intention de reprendre ses travaux sur la langue, sa mère lui apprend que son père a tout détruit. Mais l'abattement laisse place à la détermination, et Zamenhof se remet à l'ouvrage. Grâce à sa mémoire, il reconstitue l'essentiel de sa langue et lui apporte même des améliorations. Il ne cessera d'y travailler jusqu'en juillet 1887, où à l'âge de 28 ans, il publie à ses frais une brochure, d'abord en russe, puis en français, en allemand, en polonais, en anglais, sous le titre de « Langue internationale » et sous le pseudonyme de « Doctoro Esperanto », le docteur qui espère. La langue se popularisera plus tard sous ce nom. En plus de son métier d'ophtalmologiste, qu'il exerça parmi les plus pauvres de ses concitoyens, Zamenhof ne cessa jamais de traduire les grandes œuvres, les grands auteurs, comme l'Ancien Testament, Hamlet de Shakespeare ou les contes d'Andersen. Il ne s'est jamais comporté en auteur et avait renoncé aux droits sur sa langue dès le début. Le docteur Zamenhof a été promu chevalier de la Légion d'honneur en 1905 et en 1909, on voulut même le proposer pour le prix Nobel, mais il s'y refusa. Il mourut en avril 1917. Bien plus tard, en 1959, l'UNESCO a célébré Louis Lazare Zamenhof en tant que personnalité importante universellement reconnue dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. On peut retrouver son histoire, qui est aussi captivante qu'un roman, sous le titre « L'homme qui a défié Babel » de René Santassi et Henri Masson, chez l'Harmattan. Et il existe aussi, évidemment, en espéranto, sous le titre « La homo qui ou des fils Babelon ». Je vous dis à bientôt, pour partir une nouvelle fois à la découverte d'autres personnalités en lien avec l'espéranto.
Eh bien, merci Ange pour cette belle histoire qui marque le début donc de l'espéranto en 1887. Bien entendu, au départ, c'est l'histoire d'un homme, Louis Lazare Zamenhof. Mais comme tu l'as bien dit, cet homme a abandonné ses droits, il a renoncé à ses droits et a donc fait cadeau, un immense cadeau à l'humanité, le cadeau de cette langue véhiculée par des humanistes, dans un but de paix, d'intercompréhension pacifique entre les différents peuples du monde. Et puis tu viens de nous annoncer le début d'une rubrique, donc chaque semaine tu vas nous parler d'une personnalité qui a marqué l'histoire de l'espéranto. Nous allons maintenant vous proposer une première pause musicale, car nous voulons vous faire découvrir l'espéranto également en chanson. Nous avons choisi pour commencer une chanson dont chacun connaît l'air et même les paroles. C'est Jacques Ivar qui la chante. Il y est question de Verdabenk, de banc vert, et il y est question de Geamantoy, d'amoureux.
Multaj homoj kredas ke la verdaj benkoj de bulvarda trotuar servas por ripozaĉar aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel ĉar ilia ĉefbonfar estas al juna par doni lokon por la varmo de komencam al geamantoj kiuj sur la verda benk, verda benk, verda benk ne zorgante pri silenta plend de preterpasantoj unu alian kisas sur la verda benk, verda benk, verda benk kun zumado pri sia pasi jen iras mia simpati pri il tapeto sur la mur kaj varmo de sekure estonte en trankvil ili kun babilas jam dum manon tenas man ili revas pri vesper en placa atmosfer kaj laŭ plenova stil ili jam elektas nomon por naskota fil al geamantoj kiuj sur la verda benk, verda benk, verda benk ne zorgante pri silenta plend de preterpasantoj unu alian kisas sur la verda benk, verda benk, verda benk kun zumado pri sia pasi jen iras mia simpati.
Eh bien, j'espère que vous avez apprécié l'interprétation de Jacques Ivard. Vous avez remarqué que les bancs publics sont devenus les bancs verts. Verda Benko au singulier, Verda dei Benkoi au pluriel. Vous avez peut-être connu le mot trottoir, trottoir, preterpassantoi, les passants, simpatio, sympathie. Mais comprendre les paroles d'une chanson dès la première écoute est un exercice bien trop difficile, et même en espéranto. Le but était simplement de vous proposer un premier contact avec les sonorités et la musique de cette langue. Dans les prochaines émissions, nous allons donc vous proposer d'apprendre l'espéranto avec donc quelques élèves de première et deuxième année de notre groupe. Mais pourquoi apprendre l'espéranto? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'espéranto? Moi, mon argument préféré, c'est que c'est une langue équitable. Lorsqu'on parle espéranto avec une personne étrangère, prenons par exemple un Hongrois, puisqu'on cherche à établir des relations avec des Hongrois, eh bien, ils nous disent, avec l'espéranto, chacun fait la moitié du chemin. Voilà pourquoi nous considérons l'espéranto comme une langue équitable. Si nous parlons en français, il est évident que le Hongrois sera tout de suite défavorisé, et si nous parlons anglais avec un Hongrois, nous serons peut-être sur un pied d'égalité, mais aucun des deux ne maîtrisera vraiment cette langue qui est de toute façon difficile. Et alors si nous parlons anglais, avec un anglophone, hein, anglo-américain, là il est évident que nous ne sommes pas sur un pied d'égalité. Est-ce que l'espéranto est une langue qui doit remplacer toutes les autres? Bien sûr que non.
C'est une bonne question.
Merci.
Est-ce que c'est le but de l'espéranto?
Absolument pas. L'espéranto est proposé comme langue de communication. Les espérantistes disent langue pont ou langue pivot. Une langue qui respecte les autres langues, qu'elles soient nationales, régionales ou locales. Par exemple, un périgourdin qui parle occitan peut communiquer directement en espéranto avec un japonais, chacun gardant sa langue maternelle. De plus, l'espéranto ne dissuade pas d'apprendre d'autres langues. Au contraire, les espérantistes aiment les langues. L'espéranto a un caractère propédeutique.
Oui, quand tu dis propédeutique, c'est-à-dire ça a une valeur de préparation à l'étude d'autres langues.
Voilà, l'espéranto apportant une logique, eh bien cette logique est ensuite utilisable pour toutes les autres langues, même des langues qui sont beaucoup moins logiques en fait que l'espéranto.
Beaucoup plus difficile.
Donc beaucoup plus difficile.
Ça me rappelle ce que disait Claude Piron, dont nous reparlerons dans d'autres émissions, hein, puisque c'est un espérantiste très, très célèbre et un fervent espérantiste.
Et malheureusement disparu il y a quelques mois.
Donc il disait qu'on peut très bien avoir donc, sa langue nationale, sa langue maternelle, sa langue régionale, et une langue internationale pour pouvoir discuter, échanger entre les gens de différentes nations.
D'ailleurs, je vous proposerai, après la seconde pause musicale, un texte dit par Claude Piron, en fait, dit en 2005, reprenant un texte initial de Zamenhof, prononcé à Boulogne-sur-Mer en 1905. Alors c'est un document sonore qui est en espéranto, mais rassurez-vous que je vous ai traduit pratiquement mot à mot. Est-ce qu'on pourrait aborder le sujet de l'Europe et de l'espéranto?
Oui, je pense que c'est important, il faut préciser quelques points.
Voilà, j'aurais pu dire d'ailleurs de l'Europe et de son problème de langue. En Europe, il y a donc 27 pays dans l'Union européenne à l'heure actuelle. Il y a une bonne vingtaine de langues, et encore, je ne compte pas les langues régionales. Lorsque numérotons, par exemple, faisons un petit calcul avec 20 langues, numérotons-les de 1 à 20 sans les hiérarchiser, hein, simplement attribuons-leur un numéro. Dans la langue numéro 1, si un texte est écrit dans cette langue, il faut 19 traductions pour que les autres pays comprennent. Dans la langue numéro 2, il faut aussi 19 traductions. Dans la langue numéro 3, 19, etc. Donc, en tout, il faut...
Ça fait beaucoup de traductions.
Ça fait beaucoup de voies de traduction, comme disent les spécialistes. Ça en fait 19 fois 19, 361 voies de traduction. C'est énorme. S'il y avait au centre de ce schéma une langue pivot, une langue pont, une langue pivot, comme disent les espérantistes, eh bien, avec 20 langues, il suffirait de 20 traductions dans un sens et de 20 traductions dans l'autre. Au maximum, il y aurait 40 voies de traduction. 40 contre 361. Il n'y a pas photo.
Oui, c'est pas la même chose.
Et donc, il y aurait, à l'heure actuelle, l'Union européenne dépense une somme d'argent faramineuse. Ne me demandez pas l'ordre de grandeur, je l'ai oublié, et de toute façon, c'est énorme.
Moi, j'avais cru entendre une fois, mais je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour faire toutes ces traductions, c'est-à-dire aussi bien en simultané dans le Parlement européen, avec des traducteurs qui ont des casques et qui parlent, qui font la traduction en simultané, et aussi bien pour tous les textes, donc pour les traducteurs qui traduisent par écrit tous les textes. Il m'a semblé avoir entendu 1 milliard d'euros. Donc on pourrait faire bien d'autres choses avec cette somme-là.
Une étude donc très très simple montre que l'espéranto constituerait une solution économique permettant d'énormes économies donc, et encore une fois équitable. Alors que là, on fait un cadeau royal au sujet de sa très gracieuse majesté en adoptant par exemple l'anglais. Alors, ce problème des langues à l'échelle européenne a été étudié par un Suisse, François Grin, qui, il y a 3 ans environ, a fait une étude et à la demande de la Haute Autorité de l'Éducation nationale. Et il s'avère dans cette étude, alors peut-être que
voilà. En fait, nous en parlerons dans une prochaine émission. Hein, donc finalement, ça a été appelé le rapport Grin, hein, du nom de son auteur.
G-R-I-N.
Voilà, ouais. Et on en parlera plus longuement dans une prochaine émission. Hein, voilà, pour expliquer ce qu'a dit donc ce professeur. Je crois que c'est un professeur, le professeur Grin.
Oui, oui.
Et donc, mais bon, tu peux en dire 2 mots si tu veux.
Mais en fait, il a étudié l'hypothèse de l'espéranto comme langue pivot, et dans ses conclusions, il indiquait nettement que ça serait sur le plan économique la meilleure solution, mais qu'en fait, à l'heure actuelle, trop peu de gens sont prêts à cette alternative.
Voilà, en fait, je pense que il y a une chose importante qui a été dite dans ce rapport, c'est que la barrière pour adopter l'espéranto est plus d'ordre psychologique que autre, puisqu'il n'y a que des avantages, sauf que il y a encore un mauvais a priori concernant l'espéranto qui est assez peu connu du commun des mortels et de l'homme de la rue.
Et une inertie énorme. Voici maintenant une deuxième pause musicale. Vous allez pouvoir écouter Alejandro Cosavela, qui est un espérantiste argentin, qui vient d'effectuer une tournée en France, à Angoulême et à Sainte-Foy-la-Grande, par exemple. Quelques-uns d'entre nous sont allés l'écouter à Sainte-Foy-la-Grande. J'aime beaucoup cette mélodie originale d'Alejandro Cosavela, mais c'est pas tellement pour la mélodie, c'est pour le texte que je propose cette chanson aux débutants, car le texte en est particulièrement simple. Ça commence par Yen, Yen c'est le titre, voici ou voilà, Yen la Suno, voici le soleil, Yen la Luno, voici la lune, D'où malsamai astroi, deux astres différents. En fait, il s'agit d'une chanson d'amour, puisque vous entendrez par la suite Yen vi kaimi, voici toi et moi, et donc une chanson d'amour qui montre que deux êtres qui s'aiment peuvent tout à fait se compléter en étant d'ailleurs très différents l'un de l'autre. Kai Oleo. Il ne s'agit pas de faire un cours aujourd'hui, bien sûr, mais c'est quand même très tentant avec cette chanson. Akvo, c'est de l'eau. Oleo, c'est de l'huile. Entre Akvo et Oleo, il y a le petit mot Kai pour dire et. Akvo, Kai Oleo, de l'eau et de l'huile. Alors voici le document sonore promis tout à l'heure. Il s'agit donc d'un texte dit par l'espérantiste suisse bien connu et malheureusement décédé il y a quelques mois, Claude Piron. Il se trouvait à Boulogne-sur-Mer en 2005 pour commémorer le premier congrès universel qui avait eu lieu un siècle plus tôt, en 1905. Il a repris donc des extraits du texte dit à cette époque, en 1905, par Zamenhof. Écoutez-le, et puis écoutez-le en espéranto, mais écoutez également la traduction, parce que c'est un des textes qui m'a vraiment convaincu qu'il était absolument nécessaire non seulement d'apprendre, mais de diffuser l'espéranto et le message humaniste qu'il renferme. Je vous salue, chers défenseurs d'une même idée.
Fratoi kai fratinoi la granda tutmonda homa familio.
Frères et sœurs de la grande famille humaine mondiale.
Qui convenis landoi proximae kai malproximae,
qui se sont rassemblés à partir de pays proches et lointains,
la plei diversae regnoi de la mondo,
des plus divers états du monde,
por frate premi al si reciproque la mano,
pour se serrer fraternellement les mains.
Modesta estas nia conveno,
notre assemblée est modeste,
la mondo extera ne multe scias pri gi.
Le monde extérieur ne sait pas grand-chose à son sujet. Et nos propos ne volent pas par le télégraphe vers toutes les villes du monde.
Sed, tra la aero de nia salono, flugas misterai sonoi.
Mais, dans l'air de notre salon, volent de mystérieux sons.
Sonoi tre malautai. Ne audeblai por la orelo.
Des sons très faibles, non audibles pour l'oreille.
Sed senteblai por ciu animo sentema.
Mais perceptibles pour toute âme sensible.
La sonoi de io granda quio nun nascigas.
Les sons de quelque chose de grand qui est en train de naître.
En nia conveno ne existas natioi fortai kai malfortai.
Dans notre assemblée, il n'existe pas de nations fortes et faibles,
privilégiées kai sen privilégiées,
privilégiées ou sacrifiées.
Neniu humiligas, neniu sin gelas.
Personne n'est humilié, personne n'est gêné.
Ni ciui estas plene egalrajtaj.
Nous jouissons tous pleinement des mêmes droits.
Ni ciui sentas nin kiel membroj de unu nacio.
Nous nous sentons tous comme des membres d'une même nation.
Kiel membroj de unu familio.
Comme des membres d'une même famille.
Kaj la unuan fojon en la historio de la homaro.
Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité.
Ni membroj de la plej malsamaj popoloj.
Nous, membres des peuples les plus différents.
Staras unu apud la alia.
Sommes debout, les uns à côté des autres.
Ne kiel fremduloj.
Non comme des étrangers.
Ne kiel konkurantoj.
Non comme des concurrents.
Sed kiel fratoj, kiuj premas al si reciproke la manoj.
Mais comme des frères, qui se serrent réciproquement les mains.
Sincere, kiel homo al homo.
Sincèrement, d'homme à homme.
Ni konsciu bone la gravecon de la hodiaŭa tago.
Ayons bien conscience de l'importance du jour présent.
Ĉar hodiaŭ, inter la gastamaj muroj de Boulogne ĉe Maro.
Car aujourd'hui, entre les murs hospitaliers de Boulogne-sur-Mer,
convenis ne Français kun Angle.
Se sont réunis, non des Français avec des Anglais,
ne Russoi kun Pol.
Non des Russes avec des Polonais,
sed homoi kun homoi.
Mais des hommes avec des hommes. La première partie de notre présentation de l'espéranto s'achève sur ces belles paroles. Nous espérons vous avoir donné envie d'en savoir plus et vous disons à bientôt, en espéranto bien sûr. Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis.